VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Abidjan, 17h à Libreville, bienvenue à notre journal. Escalade dans la crise au Burundi. Un ancien officier de l'armée burundaise qui a déserté en septembre annonce aujourd'hui la formation d'un mouvement rebelle déterminé à chasser le président Pierre Nkurunziza du pouvoir. Dans un message audio à l'AFP, le lieutenant-colonel Edouard Nshimirimana dit que la rébellion intitulée Forêt Bou, la force républicaine au Burundi, rassemble les principaux groupes armés opérant dans le pays. Parmi ses objectifs, protéger la population et ses biens, restaurer la démocratie et sauvegarder l'accord d'Arusha qui a mis fin à la guerre civile et a opposé entre 1993 et 2006 l'armée majoritairement Tutsi à des rebelles Hutus. Cet accord avait consacré un partage du pouvoir entre Hutus et Tutsi et officialisé la parité dans l'armée et la police entre les deux ethnies. Maintenant, un extrait de la déclaration du lieutenant-colonel Edouard Nshimirimana.
Le système Nkurunziza a divisé les partis politiques, brûlé et fermé les médias, a bloqué les activités des organisations et associations de la société civile. Bref, il a détruit abusivement tout le tissu de développement d'un pays moderne. Cette politique de diviser pour régner n'a pas épargné les corps de défense et de sécurité. En osant briguer illégalement un troisième mandat, il a trahi ses frais d'armes en violant sciemment l'esprit de tous les accords qui ont permis la formation de ces derniers, seuls garants de la paix et la stabilité au Burundi. En plus de cela, il a osé détourner et subtiliser les indemnités de mission des militaires qui s'illustrent dans les missions de maintien de la paix comme des forces disciplinées, efficaces et professionnelles. Bon nombre d'entre eux ont succombé sur le champ de bataille pour la paix africaine et Nkurunziza ne leur a jamais rendu hommage. Il a en plus ordonné l'humiliation de nombreux d'entre nous, y compris des officiers supérieurs et généraux, par de simples soldats et de policiers.
C'était un extrait de la déclaration du lieutenant-colonel Edouard Nshimirimana, l'officier déserteur qui vient d'annoncer la formation du mouvement rebelle Forêt Bou, la force républicaine du Burundi. Au plan diplomatique, intensification des pressions internationales sur le président Pierre Nkurunziza pour qu'il accepte de négocier avec l'opposition la semaine prochaine en Ouganda et qu'il approuve aussi le déploiement d'une mission de paix de l'Union africaine dans son pays. Le ministre ougandais de la Défense, Crispus Kiyonga, a annoncé aujourd'hui que le dialogue politique inter-burundais devrait reprendre le 28 décembre à Entebbe sous l'égide du président ougandais Yoweri Museveni, médiateur désigné par la communauté est-africaine. Monsieur Kiyonga n'a pas précisé si le président Nkurunziza sera présent à la réunion. Selon l'AFP, un haut responsable burundais s'exprimant sous couvert d'anonymat affirme que Bujumbura est prêt à participer au dialogue inter-burundais. Mais si le gouvernement du président Nkurunziza y trouve des personnes qui ne sont pas des acteurs pacifiques, l'ordre du jour risque de changer, a averti ce haut responsable. Il n'est pas question de dialoguer avec les gens qui ont opté pour la violence, a-t-il souligné.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Congo-Brazzaville, l'opposition dénonce le projet du président Denis Sassou Nguesso d'avancer au premier trimestre 2016 l'élection présidentielle. Un mois et demi après avoir promulgué une nouvelle constitution l'autorisant à briguer un troisième mandat. D'après la charte fondamentale, le scrutin devrait avoir lieu en juillet. M. Sassou Nguesso justifie sa volonté d'anticiper l'élection par la nécessité de mettre en œuvre ce qu'il a appelé la nouvelle dynamique institutionnelle. La réaction de Jean-Marie Mpouele, coordonnateur de la plateforme politique et citoyenne Sauvons le Congo à Brazzaville.
C'est le parachèvement du coup d'État que nous dénoncions depuis bientôt 2 ans. Nous savions que le président de la République avait l'intention de se maintenir au pouvoir. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire avec un référendum contestable, avec des élections qu'il ramène, en tout cas, par sa propre volonté, parce que même la constitution actuelle, celle qu'il a promulguée, que nous ne reconnaissons pas, stipule clairement, en son article 244, que les institutions restent en place jusqu'à échéance de mandat. Or, du 1er janvier 2016 à mars 2016, nous ne sommes pas à la fin de son deuxième mandat. À la limite, c'est du gangstérisme d'État auquel nous sommes en train d'assister. Mais ceci dit, je pense que tout le monde gagnerait en inscrivant la vie politique dans une logique de dialogue permanent, mais de dialogue sincère qui pourrait déboucher sur des compromis, mais pas des compromissions, mais des compromis qui pourraient permettre au pays d'être suffisamment apaisé.
Jean-Marie Mpouele, coordonnateur de la plateforme politique et citoyenne Sauvons le Congo. Et puis en RCA, dissension ouverte au sein d'une des factions de l'ex-rébellion centrafricaine de la CELECA à propos de l'attitude à adopter face aux élections présidentielles et législatives. Anna Bodson.
Le général Noureddine Adam, ex-numéro 2 de la CELECA et désormais dirigeant d'un groupe dénommé Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique, s'est dit mardi, au nom du FPRC, décidé à adhérer à une cessation complète des hostilités sur l'ensemble du territoire centrafricain. Jusqu'à présent, Noureddine Adam se disait opposé au processus électoral en cours et avait perturbé la tenue d'un référendum constitutionnel le 13 décembre dans les zones tenues par ses combattants dans le nord-est du pays. Il avait repris la thèse d'une possible partition de cette région, menace régulièrement agitée par une partie de la CELECA depuis qu'elle a été chassée du pouvoir à Bangui par une intervention internationale début 2014. Ce communiqué a été publié après une rencontre à N'Djamena avec un émissaire de l'Organisation de la coopération islamique, a-t-on indiqué de sources officielles tchadiennes. De son côté, la coordination politique du FPRC Coalition CELECA a dénié à Noureddine Adam tout droit de parler en son nom dans un communiqué parvenu mercredi matin à l'AFP à Libreville.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La lutte contre l'État islamique. Maintenant, selon un rapport du Pentagone, le groupe État islamique a perdu du terrain en Syrie et en Irak. Mais malgré ce recul dû en partie aux frappes aériennes de la coalition internationale conduite par les États-Unis, le groupe djihadiste a aussi conquis de nouveaux terrains. Pour Mustapha Tossa, analyste politique en France, l'expansion de l'État islamique reste une menace majeure et devrait être prise plus au sérieux par la communauté international. Il est ici au micro d'Azuma Compaoré.
Jusqu'à présent, on n'a pas encore réussi à faire le bilan des attaques aériennes américaines, françaises et européennes sur ces bastions et voir si réellement ces attaques ont touché les structures de commandement et de décision de l'État islamique. Donc, cette affirmation est à prendre au conditionnel. Leur ambition, elle est globale, c'est d'essayer de fédérer, de coaliser l'ensemble des groupes qui se réclament du djihadisme mondial et de les mettre sous la même bannière, celle de l'État islamique.
Qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant au niveau des différentes coalitions qui existent, la Russie, les États-Unis et tout?
On s'attend à ce que la communauté internationale soit réellement sérieuse dans la lutte contre ce phénomène-là. Alors maintenant, toute la question est de savoir est-ce que le fait de se contenter uniquement de bombarder de manière aérienne les bastions de l'État islamique en Syrie et en Irak, est-ce que c'est la seule solution ? Ou bien il faut envisager d'autres pistes, y compris celle de déployer des forces terrestres pour aller combattre sur le terrain militairement la direction de Daesh. Alors on parle aussi de monter une coalition locale, sous-traiter cette guerre à des forces arabes, kurdes et pourquoi pas turques demain. Donc toutes les hypothèses sont là, sauf qu'il y a une seule certitude, c'est que l'action du bombardement aérien n'a pas suffi à éradiquer Daesh. Bien au contraire, l'État islamique en a profité pour s'épanouir et pour augmenter son territoire.
Qu'est-ce qui explique la difficulté de pouvoir lutter efficacement contre l'État islamique aujourd'hui?
C'est un manque de volonté internationale réelle. Alors là, les États-Unis ont été échaudés par des expériences comme celle de l'Afghanistan et de l'Irak. Les Européens sont échaudés par l'expérience libyenne. Donc il y a un manque évident de volonté militaire et politique internationale pour lutter contre Daesh. Et l'État islamique profite de cette hésitation, de cette timidité, de cette peur de déployer des forces terrestres sur des territoires comme l'Irak et la Syrie. Donc il en profite pour s'épanouir. Mais le jour où il y a une vraie volonté de combattre Daesh, je ne crois pas que Daesh soit plus dangereux que ne l'était le régime des talibans en Afghanistan ou que ne l'était Al-Qaïda. Sauf que Al-Qaïda et le taliban en a su et avec une fermeté et une détermination les combattre. Et Daesh, il y a une grande hésitation internationale qui est à l'œuvre et qui empêche toute action réellement efficace pour lutter contre Daesh.
Mustapha Tossa, un analyste politique basé en France. Et concernant la lutte en Syrie, des opposants syriens affirment que 5 personnes ont péri lors d'une attaque au gaz toxique menée mardi par le régime du président Bachar al-Assad dans le sud-ouest de Damas. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.